Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Comment conserver une bonne ouïe? Une question essentielle que nous nous posons, car c'est aujourd'hui la 18e journée nationale de l'audition. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que 360 millions de personnes souffrent dans le monde de déficiences auditives incapacitantes. Les premiers signes du vieillissement auditif apparaissent dès la cinquantaine, et aujourd'hui d'ailleurs c'est même de plus en plus tôt. En cause, les pratiques d'écoute amplifiée dans les concerts, mais surtout d'ailleurs avec un baladeur MP3 à fond dans les oreilles, la moitié des jeunes s'exposent à des niveaux sonores dangereux. La perte de l'audition est source de souffrance morale, car les personnes ont souvent un sentiment d'exclusion. À cela s'ajoutent parfois des problèmes d'acouphènes, c'est-à-dire en fait de sifflement dans les oreilles. Alors comment vieillit le système auditif? Quand et où se faire dépister? Quels sont les moyens d'y remédier? Quels sont les moyens de prévention? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le docteur Joël Crevoisier, qui est chef du service déficience sensorielle de la Fondation hospitalière Sainte-Marie à Paris. Et si vous avez envie de lui poser des questions, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Marie-Josée Tanon-Anneau, qui est chef de service adjoint dans le service ORL du CHU de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et en fin d'émission, comme tous les jeudis, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano. Docteur Crevoisier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé pour parler de nos problèmes d'ouïe. Quelle est la fréquence de ces problèmes d'audition? J'ai donné un chiffre mondial. Est-ce qu'on a une fréquence sur la France?
Ouais, aujourd'hui, on a à peu près 16% de la population française qui présente des déficiences auditives, ou en tout cas des plaintes, et à peu près la moitié de ce chiffre représente des gens qui ont des répercussions dans leur vie quotidienne.
Et ce chiffre est un peu le même dans l'ensemble des pays?
Ça s'est stabilisé en 10 ans. La dernière enquête date de 1998, ce qu'on appelait l'enquête HID, et on a une stabilisation.
Stabilisation, ça veut dire qu'avant, ça n'avait cessé d'augmenter?
Probablement. On n'a pas de chiffres précis, en tout cas sur le territoire. La première véritable enquête vraiment date de 98. Avant, c'était des enquêtes plutôt régionales ou locales. Donc, la base de référence représente quand même celle de 98. Et là, on a une stabilité.
À partir de quel âge l'audition baisse? J'ai dit la cinquantaine, mais ça peut même être un peu avant?
Alors, on a des chiffres, si vous voulez, les chiffres significatifs montrent que à partir de 50 ans, un tiers des personnes se plaignent de difficultés auditives. Et on sait qu'à 80 ans, plus de la moitié des gens présentent des déficiences auditives.
Plus de la moitié, ça veut dire qu'il y a quand même la moitié qui n'en souffre pas, donc c'est pas inéluctable d'entendre moins bien.
C'est pas inéluctable, pas du tout, surtout si on a effectivement travaillé dans des ambiances plutôt calmes, il y a aucune raison qu'on dégrade son audition, mais on a quand même des chiffres que là qui sont stabilisés et c'est complètement lié là aussi au vieillissement, on le voit sur les courbes.
Le problème principal d'ailleurs, c'est celui de la baisse de l'audition, ou est-ce que c'est celui des sifflements dans l'oreille, ce qu'on appelle les acouphènes, où on voit qu'ils vont en augmentant, ou bien est-ce que c'est parce qu'on en parle plus?
Alors si vous voulez, la majorité des difficultés sont plutôt des baisses de l'audition isolées. En général, les acouphènes sont plutôt associés à des baisses de l'audition, mais le problème de l'audition et des difficultés de l'audition sont plutôt des difficultés, des baisses de l'audition liées au vieillissement. Les acouphènes sont une autre problématique.
Et les acouphènes qui touchent plutôt une population plus jeune, pour le coup, c'est ça?
Plutôt, on le voit, c'est le thème justement de notre journée, c'est lié effectivement à un environnement sonore difficile, à des habitudes de vie et des habitudes qui ne préservent pas l'audition, et notamment la problématique de l'écoute de la musique trop forte.
Entre autres, au cas où on y reviendra. Hein. Pour trouver quelqu'un justement qui a des problèmes d'acouphènes, c'est-à-dire de ces sifflements dans les oreilles, on n'a pas eu à aller bien loin. Hein. Les journalistes et techniciens de radio travaillent sous casque en écoutant souvent à un volume trop fort. Laurence Alloire, que vous connaissez sur RFI, qui présente Musique du Monde, avec peut-être d'ailleurs une petite tendance à mettre la musique à fond, elle a donc des problèmes d'acouphènes, des propos recueillis par Igor Strauss. ça commence.
Un jour de fatigue, et c'est un son qu'on entend dans l'oreille. Alors au début, on regarde devant, derrière, et on se dit non, ça vient de chez moi. Ça, c'est insupportable. Ce sont des fréquences qui sont pas très très agréables. C'est pas une symphonie, hein. C'est pas du Mozart, c'est pas du Beethoven. C'est une fréquence, c'est un ça peut avoir un côté très métallique et ça prend la tête au sens propre comme au figuré. Voilà comment ça commence.
Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois que ça vous est arrivé? Est-ce que vous connaissiez déjà les acouphènes?
Oui, j'en avais entendu parler, mais on peut pas le réaliser tant qu'on ne le vit pas. C'est-à-dire, il faut pas que le cerveau se branche dessus, parce qu'autrement, ça le nourrit. Et le soir, je dois me brancher sur un son. Par exemple, ça peut être le bruit de l'eau, ou je trouve une musique qui est un peu sympa, et donc mon cerveau se branche là-dessus et couvre l'acouphène, comme il est pas trop fort. Et voilà comment je fonctionne.
C'est-à-dire que tous les jours, vous avez des acouphènes ou c'est...
Ouais, presque tout le temps. Des fois, ça se calme un peu. Puis le cerveau s'habitue, vous savez. Le silence n'existe pas. Donc l'oreille, le cerveau se branche sur les fréquences qu'on veut bien lui donner ou auxquelles il est habitué. Et on arrive à rentrer dans le sommeil, par exemple. Parce que c'est très ennuyeux, ça arrive bien le soir. Quand tout est calme, le truc part, vous regardez un film, etc. C'est bonne ambiance, belle soirée en perspective.
Et du coup, quand vous dites que vous focalisez sur un son, c'est vraiment ce qu'il faut faire?
C'est ce qu'il m'a conseillé, et ça marche bien. Alors, si vous avez un problème de robinet, vous mettez sur la goutte d'eau qui tombe, ch'tong, il y en a que ça énerve, moi ça me calme, ça va, je rentre dans le sommeil, il faut un petit son.
Donc c'est tous les jours, mais est-ce que la durée des acouphènes varie?
Il y a des gens qui ont des acouphènes constants, et là c'est vraiment une vraie chienlit. Moi je sais pas, alors là pour le coup, parce que je me suis tellement habituée à un qui est régulier, et qui rentrait, j'allais dire, dans mon univers comme un pull, quoi. On peut avoir des acouphènes violents, c'est-à-dire que ça démarre, et puis ça peut durer un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, au bout d'une semaine, reposer, bien manger, calme, pas embêté par personne, ça s'en va, ça dépend. Vous avez plusieurs formats.
Alors vous faites un métier...
Magnifique, oui.
Qui vous oblige à porter un casque sur les oreilles. Du coup, professionnellement parlant, est-ce que ça vous dérange et est-ce que vous avez senti que ça s'accentue un petit peu?
Le port du casque n'est pas l'idée du siècle. Malheureusement, quand on travaille à plusieurs dans un endroit, si tout le monde se met à écouter tout fort sur son ordinateur, c'est pas terrible, donc on porte des casques. Mais c'est vrai que quand on a des acouphènes, c'est pas l'idée du siècle. De toute manière, le casque aggrave.
Donc ça vous gêne professionnellement parlant, mais dans quelle mesure ça vous gêne dans votre vie de tous les jours?
La vie de tous les jours, j'ai l'impression de perdre quelques fréquences aussi. L'acouphène renvoie un son un peu métallique. Je ne perçois plus ma voix comme avant. Donc très gênant quand on fait des réglages micro. Je ne peux pas toujours me faire confiance. Et parfois, quand j'ai un son fort dans l'oreille, je demande à ce qu'on me parle un peu plus fort. Comme si j'avais un problème de perception auditive, alors que c'est parce que j'ai un son dans l'oreille. Je demande qu'on me parle un peu plus fort.
Et quand vous écoutez de la musique, ce que vous faites régulièrement?
Ça va, j'écoute la musique, mais alors pas au casque, c'est chez moi, sur des enceintes.
Est-ce que ça empire avec les années? Est-ce qu'il y a une possibilité que ça se résorbe?
Alors ça, je ne sais pas, on ne m'a pas fait de promesse en ce sens chez le spécialiste. Mais je suppose que quand on est heureux, que tout va bien, etc., bizarrement, ça diminue.
Qu'est-ce qui est le plus gênant?
Avoir un son dans l'oreille, c'est pénible. C'est comme d'avoir mal à la tête. On a envie que la chose sorte, s'en aille. C'est plus qu'agaçant. Un vrai acouphène, fort, qui est constant, je te répète, ça rend dingue. Et c'est comme si ton voisin faisait tout le temps du boucan. Voilà.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on parle des problèmes d'audition avec le docteur Joël Crevoisy. Je voudrais vous faire réagir à ce témoignage de Laurent Saloir. Effectivement, l'acouphène, c'est comme un voisin qui fait du bruit en permanence.
Ouais, c'est surtout une maladie professionnelle. Il faut que ce soit reconnu en tant que tel. C'est la problématique, là aussi, ce qu'on évoquait tout à l'heure, de la jeunesse qui écoute de la musique trop fort. Des musiciens également, des musiciens studio qui sont souvent atteints de cette problématique. On a la chance aujourd'hui de voir, si vous voulez, fleurir des centres très très spécialisés, répartis sur, en tout cas, le territoire, avec des équipes pluridisciplinaire formé qui regroupe des psychologues, des médecins ORL, et il faut surtout, je pense, il faut aussi faire reconnaître ça, pouvoir en parler et pouvoir être bénéficier d'un suivi là aussi psychologique, qui à mon avis votre collègue l'a évoqué. Je pense la partie psychologique joue également,
parce que ça rend dingue
et parce que il y a des techniques comportementales qui peuvent là aussi faire baisser en tout cas cette sensation et cette omniprésence du bruit, de ce sifflement. Donc les techniques cognitivo-comportementales, le suivi psychologique, et puis aussi il y a des aides en tout cas auditives qui permettent là aussi d'atténuer le bruit. Elle l'évoquait également de pouvoir apprendre à écouter ce qu'on appelle des bruits blancs qui permettent là aussi artificiellement d'atténuer cette sensation.
C'est-à-dire aussi un peu de penser à autre chose, on sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
D'où la nécessité d'être suivi par une équipe formée, experte, pluridisciplinaire, qu'on connaît, des collègues à nous qui ont créé ces centres et qui sont en tout cas très efficaces. C'est une prise en charge très particulière, c'est un autre métier, s'occuper des acouphènes, c'est un autre métier que le nôtre qui est celui de la déficience auditive, c'est un tout autre métier.
Et les deux peuvent être liés, parce qu'elle dit aussi qu'elle sent qu'elle perd l'audition.
Bien sûr. Les autres peuvent être liés, effectivement.
Et on va revenir sur tout le travail que vous faites justement en termes de prise en charge des déficients auditifs. Les auditeurs sont nombreux à vous appeler pour vous poser des questions. Donc, alors justement, on a Mokhtar qui nous appelle du Sénégal. Mokhtar, bonjour.
Oui, bonjour Caroline. Bonjour.
Non, c'est clair, mais on vous écoute.
Oui, bonjour également au docteur Prévoisier.
Oui. On vous écoute, Mokhtar.
Oui, comme je l'avais dit hier, j'ai parfois des acouphènes, c'est-à-dire des sortes de bourdonnements et de sifflements. Et d'où ma question, est-ce que le fait d'avoir des acouphènes n'est pas un signe avant-coureur d'un probable dysfonctionnement auditif? Et une autre chose aussi que je ne voudrais pas occulter, j'écoute souvent le rap.
Oui.
Une sorte de rap engagé avec une rythmique très agressive. Et je demande, est-ce qu'il y a un facteur de risque pour que j'encours une baisse d'audition dans les années à venir?
Et surtout la question que j'ai envie de vous poser, Mokhtar, mais vous écoutez du rap, d'accord, mais est-ce que vous l'écoutez très fort avec le casque à fond dans les oreilles?
Oui, comme on dit aussi, j'augmente le casque à fond, juste pour dire, comme ça envoie quoi, comme on dit chez nous.
Je pense que c'est un peu ça le problème, docteur Joël Crevoisier. Je voulais qu'on parle de cette question parce que cette journée nationale, c'est de mettre l'accent aussi justement sur la prévention et attention au casque.
Bah oui, c'est une bonne question. Ce qui vous arrive, c'est qu'effectivement, vous avez vos cellules très spécialisées qui se situent au sein de l'oreille, ce qu'on appelle l'oreille interne, qui ont effectivement été un petit peu endommagées suite aux années d'écoute de casque et d'écoute de musique fort. Et si vous voulez, la problématique de vos sifflements d'oreille, de vos acouphènes et de votre baisse de l'audition, en tout cas, que vous ressentez, est intimement lié à la diminution du nombre de cellules et au dysfonctionnement de ces cellules. Là, aujourd'hui, il est dit que les cellules ne peuvent pas être régénérées. Maintenant, certaines équipes, notamment françaises et américaines, travaillent justement sur le développement et de régénérer ce genre de cellules, mais on n'en est pas encore là. Et je pense que vous avez intérêt, en tout cas pour ne pas que ça s'aggrave, de pouvoir faire très attention, préserver votre audition par surtout une diminution de votre intensité de musique dans le casque. Et puis si vous vous retrouvez ou en boîte de nuit ou dans des concerts, de pouvoir ne pas hésiter à poser des bouchons d'oreilles qui amélioreront votre confort et puis ne diminueront pas votre sensation musicale.
Donc dans les conseils, c'est pas le casque à fond dans les oreilles, mais c'est aussi quand on est dans un concert, justement, de pas être juste à côté des enceintes pour pas avoir le son trop fort. Et les bouchons d'oreilles, ça permet tout à fait d'entendre, ça diminue simplement le niveau, c'est ça l'idée.
Alors complètement, il y avait eu comme ça des articles comme ça très synthétiques qui donnaient les conseils aux jeunes pour justement limiter ces troubles auditifs. Et c'est ce qu'on évoque. C'était de diminuer effectivement la puissance de la musique dans les casques, de ne pas se mettre à côté des enceintes, de pouvoir éventuellement porter des bouchons. Et quand on est en boîte de nuit ou sur un concert qui dure peut-être longtemps, de pouvoir sortir de la salle, de pouvoir récupérer, avoir un temps de récupération de 10 minutes ou d'une heure et demie ou deux heures et de pouvoir récupérer pour que les cellules sensorielles puissent récupérer.
La question d'une musique particulière, du rap, est-ce qu'il y a des musiques plus à risque ou en fait absolument pas? C'est la question du niveau sonore.
C'est vraiment le niveau sonore. Mmh. A priori, c'est vraiment le niveau sonore.
Pas
il doit y avoir des éléments, des études probablement qui ont montré que la fréquence, il y a des fréquences plus nocives. En tout cas, pour un message simple, c'est vraiment de diminuer l'intensité de la musique.
Merci beaucoup Mokhtar, et donc grand conseil, baisser le niveau de la musique. On a Wendy qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Wendy, bonjour.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Alors, moi j'ai un problème en fait, j'entends trop fort. Voilà, donc je voudrais savoir si c'est une maladie ou si c'est normal. Je donne un exemple, par exemple, en regardant la télé, j'ai toujours tendance à diminuer le volume parce que j'entends trop fort, alors que les autres, ils n'entendent pas.
C'est intéressant, ça.
C'est très intéressant. Alors, c'est souvent lié aux acouphènes également. C'est ce qu'on appelle l'hyperacousie, si vous voulez. C'est un mécanisme qui est à peu près équivalent, qui se traite là aussi de la même manière par des centres très spécialisés. Mais vous êtes là aussi dans ce qu'on appelle un dysfonctionnement de vos cellules sensorielles, un peu comme les acouphènes. Et c'est effectivement très très gênant. Vous êtes là aussi dans une insatisfaction, dans un inconfort permanent, et là aussi il y a beaucoup de techniques et
on fait comment justement là?
Bah, si vous voulez, là ce sont des prises en charge, hein. il y a une prise en charge, en tout cas un aspect là aussi psychologique qui joue. Il existe quelques médicaments, mais qui sont peu efficace, et là aussi être prise en charge dans la mesure du possible par une équipe pluridisciplinaire. C'est des prises en charge qui sont longues mais souvent efficaces.
On aurait pu penser que c'était plutôt un avantage d'entendre très bien.
Pas du tout, parce que c'est un inconfort, c'est une douleur. C'est un inconfort, une douleur. Et là aussi, paradoxalement, les gens s'isolent parce qu'ils ne supportent plus le bruit.
Merci beaucoup Wendy, et bon courage à vous. Je voudrais qu'on parle, docteur Joël Crevoisier, de votre travail dans votre service de déficience sensorielle du Centre Paris-Sud, hein, qui dépend de la Fondation Hospitalière Sainte-Marie. Concrètement, les gens viennent vous voir comment, dans quel cadre? Ils sont souvent envoyés par un médecin?
Alors, pas toujours un médecin. Ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, en tout cas, on est très attaché par le lien qu'on garde avec l'ORL, le médecin traitant ou l'ORL traitant ou l'audioprothésiste traitant si les patients sont porteurs d'aide auditive. À partir de là, il y a un dossier qui est envoyé, qui est rempli par le médecin et par l'audioprothésiste. À partir de là, les gens sont accueillis au sein de notre structure afin d'être évalués avec une évaluation pluridisciplinaire par un psychologue, par une orthophoniste, par l'audioprothésiste, par le médecin ORL qui travaille avec nous, et une ergothérapeute afin de déterminer les besoins en aide technique. À partir de là, il y a une réunion qu'on appelle pluridisciplinaire qui réunit l'ensemble de l'équipe, mais surtout le patient et la personne et éventuellement sa famille, afin de pouvoir échanger sur les résultats de l'évaluation. Et là, nous proposons un parcours de soins spécialisé, pluridisciplinaire et surtout individualisé, qui aujourd'hui sont à peu près de 10 demi-journées sur une prise en charge là aussi adaptée.
Donc vos patients ont une déficience auditive qui varie suivant les patients que vous avez. Et qu'est-ce que vous faites en termes de rééducation justement?
Alors en termes de rééducation,
vos 10 demi-journées, on y fait quoi?
Alors les 10 demi-journées, si vous voulez, alors ce qui est très important, c'est qu'on est un service de réadaptation. Donc si vous voulez, on s'adapte au handicap, à la situation de handicap. Voilà, c'est surtout ça, c'est ce que nous expliquons aux patients, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un service d'ORL, souvent ce sont des pathologies installées, ce sont des situations de handicap qui existent depuis des années, médicalement on n'a pas d'amélioration. Par contre, on est dans une possibilité de compensation, de réadaptation sur deux, trois versants principaux. La partie orthophonique qui permet, si vous voulez, là, un entraînement auditif, une discrimination plus importante, et puis là aussi l'apprentissage de techniques comme la lecture labiale à la fois pour le patient et pour les aidants afin de mieux comprendre. Il y a la partie technique avec l'audioprothésiste et l'ergothérapeute pour l'adaptation des aides techniques, et surtout le suivi et le soutien psychologique avec nos psychologues spécialisés.
On y revient dans la deuxième partie de cette émission, donc toujours pour parler de ces troubles auditifs et de la prise en charge. On parlera aussi de l'importance d'un dépistage précoce. Un téléphone si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 75, et bien sûr comme toujours les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. On se retrouve dans 3 minutes juste après les infos.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des troubles de l'audition à l'occasion de la 18e journée nationale de l'audition qui se déroule aujourd'hui. Mon invité, le docteur Joël Crevoisier, chef du service déficience sensorielle de la Fondation hospitalière Sainte-Marie. Si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Lire un message qu'on vient de recevoir d'un auditeur qui dit « Écoutez, moi Claire, je suis foutue d'avance, les écouteurs sont devenus ma drogue, ils ne quittent pas mes oreilles, je ne peux pas m'en passer, finalement je suis accro, matin, midi et soir, ils sont fixés. Parfois même quand je n'écoute rien, ils sont quand même dans mes oreilles, j'aimerais vraiment adopter des stratégies me permettant de réduire cette utilisation abusive, mais je n'y arrive pas. Mon frère ne cesse de me le répéter, il me l'arrache même parfois, mais ouf, de temps en temps il est sur le marché, il n'est pas avec moi à côté. » Vous entendez ça de temps en temps, docteur Crevoisier?
Ça nous arrive. C'est pour l'instant, c'est pas tout à fait les gens qui viennent nous voir, c'est pas tout à fait ça. Mais je pense qu'on va être confronté au problème. Et c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on a besoin de musique, on a besoin d'ambiance. Et il faut surtout lancer nos messages de prévention comme on le fait aujourd'hui. Il faut continuer.
Pour dire aux jeunes de faire attention. On a au téléphone le professeur Marie-Josée Tanon-Anneau, qui est chef de service adjoint du service ORL au CHU de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire, secrétaire général de la Société ivoirienne d'ORL. Professeur Marie-Josée Tanon-Anneau, bonjour.
Bonjour Madame Claire Hidon.
Est-ce que vous constatez la même chose en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ces problèmes d'audition sont de plus en plus fréquents?
Oui, nous faisons ce même constat, peut-être aussi parce qu'on informe un peu plus la population qui se plaint plus souvent de ces troubles de l'audition. C'est peut-être cela qui explique cette augmentation de fréquence. En fait, qu'on constate.
Et ça veut dire que vous faites aussi tout un travail de prévention auprès des jeunes pour leur dire attention, par exemple, au casque?
Oui, nous essayons depuis maintenant une dizaine d'années. Nous avons un peu copié sur le système français avec
les journées nationales de l'audition,
tout à fait. Et nous profitons de ces journées pour informer, sensibiliser la population. Parce que je vous avoue que la spécialité ORL en elle-même n'était pas bien connue. Et donc, les patients ne savaient pas vers où se tourner devant un trouble de l'audition. Et là, maintenant, c'est un peu plus sûr. Donc, on a un peu plus de patients en consultation.
Quels sont les moyens dont vous disposez à la fois de diagnostic et de traitement sur ces déficiences auditives?
Concernant le diagnostic, nous avons le matériel de dépistage et de diagnostic des troubles de l'audition. Malheureusement, ce matériel est insuffisant pour l'ensemble de la population parce que c'est que les trois CHU qui en disposent.
Donc c'est que Abidjan, en gros, c'est ça?
Abidjan et maintenant dans une autre ville de l'intérieur, c'est-à-dire Boaké, dans le centre plutôt, où il y a un centre hospitalier universitaire également, où les éléments du diagnostic se mettent également en place. Maintenant, concernant le traitement, nous avons un peu plus de difficultés. Je pense qu'il faut déjà informer la population qu'il y a deux types. Il y a les surdités, les troubles de l'audition. Il y a des troubles de l'audition liés aux atteintes de l'oreille externe, moyenne, qui peuvent être traités médicalement ou chirurgicalement. Et puis les surdités sensorielles, je pense que c'est de celles-là qu'on parle aujourd'hui, qui sont définitives et pour lesquelles la prise en charge est beaucoup plus délicate. Il faut des moyens que nous n'avons pas toujours et que voilà. Donc, par exemple, pour ces gens de surdité, il faut suppléer le trouble auditif, la baisse auditive par la mise en place de prothèses auditives. Ces prothèses coûtent cher, elles ne sont pas donc accessibles à la population, ou alors faire une chirurgie, mettre l'implantologie cochléaire, c'est-à-dire remplacer des cellules sensorielles qui sont au niveau de la cochlée. Et ça, malheureusement, ne pourront pas le faire à Abidjan, pour l'instant.
Donc, docteur Joël Crevoisier, je voudrais vous faire réagir à la question du coût, entre autres, des prothèses. C'est la même chose chez nous, les prothèses sont chères? C'est pas remboursé par la Sécu, en gros.
Ouais, les prothèses sont très chères. Il faut compter 1500 à 1800 euros par oreille. Elles sont très mal remboursées. On a aujourd'hui des appareils qui coûtent un petit peu moins cher, mais pas toujours. Ce qui est important, c'est un suivi, en tout cas un suivi par un audioprothésiste. Et vous savez que le prix aussi des aides auditives inclut le service pendant des mois permet des réglages ou de pouvoir rectifier les réglages.
C'est des réglages de fréquence, c'est ça?
Oui, c'est des réglages de fréquence. Aujourd'hui, vous savez, un appareil auditif se règle finalement en le branchant à un ordinateur avec des réglages de fréquence très fines, voilà. Et aujourd'hui, le prix de l'aide auditive inclut tout ce service. Ouais.
Il y a eu toute une polémique à un moment en France sur le coût de ces prothèses auditives, coût abusif. Il y aurait moyen quand même de les produire moins cher. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Vous savez, aujourd'hui, on a aujourd'hui des propositions d'aide auditive. Moins cher, peu cher, il faut évaluer tout ça. Il y a beaucoup d'études qui sont aujourd'hui sur de l'évaluation de prothèses dites low cost.
Oui, je voulais demander, moi ce que j'ai compris c'est que c'est très cher parce que c'est comme des petits ordinateurs, c'est pas comme les lunettes. Et deuxième chose, ce que vous voulez dire c'est que les prothèses pas chères, on n'aura peut-être pas le même service de suivi et les mêmes réglages puisqu'on paye pas très cher, c'est
peut-être, ça? Peut-être, on aura peut-être qu'à un coût moindre, on aura peut-être une technologie qui sera pas aussi évolué, et c'est surtout le service, en tout cas le travail qu'on fait avec les audioprothésistes nous confirme bien tout ce travail, tout cet investissement, la possibilité là aussi de près des appareils, de près des aides auditives pendant quelques semaines afin de pouvoir ensuite procéder à des réglages et puis de procéder à un suivi.
On a quand même un petit peu dit que c'était aussi comme les opticiens, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être moyen d'ajuster un peu plus les coûts que ce qui n'est fait à l'heure actuelle. Il y a quand même un peu sur les opticiens, il n'y a absolument aucun doute aujourd'hui. Hein. Un opticien à Paris peut vivre en ne vendant que 2 paires de lunettes par semaine.
Ouais. Donc, alors, il y a tout l'aspect technologique. Voilà. Il y a tout l'aspect technologique et service qu'on ne voit pas en optique, voilà, qu'il faut considérer et qu'il faut prendre en compte.
Professeur Marie-Josée Tanon-Anneau, quels sont les messages que vous avez envie de faire passer à l'occasion de cette journée de l'audition?
Plusieurs messages déjà. Au niveau de la prévention, nous aimerions que parce que déjà il faut signaler que nous les causes un peu de la surdité à Abidjan en termes de fréquence sont quelque peu différentes de celles qu'on a en France. Nous avons encore beaucoup d'infections qui sont au premier rang, que ce soit des méningites, que ce soit des infections d'oreilles, que ce soit même le paludisme. Et donc toutes ces causes-là favorisent les troubles de l'audition chez nous. Et nous mettons l'accent sur la prévention de ces infections, que ce soit des infections bactériennes ou virales, par le suivi des grossesses, par les vaccinations, par la prise en charge précoce des infections. Et nous incitons de plus en plus les parents et les populations à faire contrôler l'audition, surtout des enfants, en âge scolaire, de façon systématique, ce qui n'est pas encore dans les habitudes à Abidjan. Donc c'est déjà principalement nos messages à l'endroit des populations.
Et j'imagine aussi de venir consulter suffisamment tôt. Je voulais vous faire agir là-dessus, Joël Crevoisier. Pourquoi justement un dépistage précoce est-il important?
C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience.
Et ça permet aussi une rééducation plus facile. Enfin, je dirais.
Oui, une rééducation en tout cas précoce, en tout cas une compensation de ces difficultés précoces, je pense, permet là aussi d'une prise de conscience de sa situation de handicap, ce qui est toujours plus simple. On le voit dans nos premiers échanges avec les patients en déficience auditive, mais on l'a surtout noté dans notre spécialité, on va dire historique, qui est la déficience visuelle, qui effectivement montre que les gens ensuite répondent beaucoup mieux à l'adaptation et puissent là aussi intégrer, si vous voulez, cette déficience pour améliorer leur qualité de vie par là aussi une adaptation de leur situation de handicap et une participation de l'entourage.
Dans la rééducation dont vous nous parliez tout à l'heure, vous parlez d'apprendre à lire sur l'élève, la lecture labiale. Comment on apprend ça justement?
Alors, c'est quelques séances, si vous voulez, de sensibilisation par notamment une orthophoniste spécialisée ou une ergothérapeute spécialisé. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement la personne qui est elle est si vous voulez atteinte de la déficience auditive le fait spontanément
la plupart du temps
évidemment. Ce qu'il faut surtout, c'est de pouvoir sensibiliser. Ce qui est très important, c'est de sensibiliser les aidants, de sensibiliser les familles, et notamment on le voit dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, de pouvoir là aussi pouvoir sensibiliser le personnel à effectivement pouvoir regarder la personne en face.
C'est ça, lui parler
en face pour que la personne porteuse d'une déficience auditive puisse lire sur les lèvres. Ce sont des messages simples, mais une sensibilisation.
Et qui coûte pas cher pour le coup. Professeur Marie-Josée Tanon-Anneau, c'est ce que vous faites aussi, vous, avec vos patients?
Oui, c'est ce que nous essayons de faire. Là encore, nous sommes confrontés au problème de personnel soignant parce que nous n'avons pas suffisamment d'orthophonistes. Nous n'avons que 2 orthophonistes qualifiés. Nous n'avons que 2 audioprothésistes en Côte d'Ivoire, et donc c'est un peu difficile de coordonner toutes ces activités. Nous avons une seule école publique qui prend en charge l'éducation des enfants malentendants, et donc la majorité du temps, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas vraiment de recours aux professionnels, et donc on privilégie vraiment effectivement la lecture labiale, l'apprentissage de la langue des signes. Bon, c'est un peu... notre quotidien.
C'est ça, et avec un manque de moyens. Merci beaucoup, hein, professeur Marie-Josée Tanon-Anneau. Je vous rappelle que vous êtes chef de service adjoint au service ORL du CHU de Yopougon à Abidjan. Je voulais juste vous signaler que je suis à Abidjan justement la semaine prochaine pour des rencontres de l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui fait un symposium sur les recherches nord-sud sur le site d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Les auditeurs sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions. On a Justin qui nous appelle de Porto Novo au Bénin. Justin Magloire, bonjour.
Oui, bonjour.
Racontez-nous ce qui vous arrive.
Voilà, je vous remercie. Ben, j'ai souffert jusqu'en 1992 d'une autospongiose de l'oreille droite. Et pour donc régler le problème, il a fallu que je subisse une intervention chirurgicale. Et c'est au sortir donc de l'opération que j'ai développé à la fois un vertige et un acouphène. Ben, pour soigner le vertige, à l'époque, on m'avait prescrit du Vactarel. C'est passé. Mais l'acouphène est resté. Et en 2006, donc je suis retourné à Paris où j'avais été opéré, et on m'a installé une prothèse auditive. En 2007, il a fallu donc qu'on change la prothèse donc pour qu'elle puisse donc, cette fois-ci émettre donc un bruit, un sifflement, qui devait avoir la propriété donc, de masquer mon acouphène. Bon, l'opération n'a pas tellement... Le dispositif n'a pas fonctionné. Ben, je me suis retrouvé...
Et est-ce que vous avez aussi une baisse de l'audition en même temps?
Oui, à l'époque, mais ça a été relativement corrigé. C'est pour ça donc, qu'il y avait eu la première prothèse auditive en 2006. En 2007, la seconde...
Et quelles sont vos questions, du coup?
La question, bon, un ami m'avait dit donc à l'époque que le téléphone portable ou une certaine utilisation du téléphone portable pouvait aider à régler le problème de l'acouphène. Et la deuxième question, c'est de savoir donc, par rapport à l'état de la recherche en cette matière, quelle est, disons, la façon de prendre en charge les personnes vivant avec l'acouphène.
Alors le téléphone portable, docteur Crevoisier.
Pas de notion d'adaptation de téléphone portable. On a vraiment, nous, on est aujourd'hui sur l'utilisation de ces prothèses auditives qui produisent un son masquant. Voilà, moi, j'ai aucune notion d'application ou de téléphone qui pourrait améliorer les acouphènes.
Et après, la façon de prendre en charge, c'est ce dont on parlait en première partie de l'émission, c'est vraiment d'essayer de trouver, voilà, des dérivatifs.
Tout à fait. Alors, c'est facile pour nous, hein. C'est facile pour nous
facile
à Paris.
Facile
pour nous à Paris de proposer un centre spécialisé pluridisciplinaire. C'est vrai que c'est toujours la difficulté en Afrique. Ma consoeur l'a évoqué. Il y a 2 audioprothésistes pour Abidjan, 2 orthophonistes. Donc c'est très compliqué. Mais ça nécessite aujourd'hui vraiment une prise en charge pluridisciplinaire avec des psychologues, avec des orthophonistes. Ça, c'est important.
Merci beaucoup, Justin. Dans vos patients que vous suivez dans votre service, on a compris que c'était essentiellement des patients qui avaient des déficiences, enfin une audition qui baissait. Est-ce que souvent elle est couplée avec des problèmes d'acouphènes ou pas forcément?
Pas forcément. Sur notre expérience, sur notre expérience, on a accueilli très peu de personnes présentant des acouphènes. On est là aussi en lien avec les centres spécialisés pour lesquels ils sont redirigés, puisque nous n'avons pour l'instant pas de compétences, en tout cas pas d'équipe dédiée à la prise en charge des acouphènes. Donc pour l'instant, heureusement pour nous, nous n'avons pas été confrontés au problème, mais on va l'être. On l'entend bien sur les témoignages. Et là, il faut absolument une collaboration entre les centres spécialisés de l'acouphène et des centres de réadaptation comme le nôtre.
Votre centre de réadaptation, on en a une image a priori d'un centre où il y a du coup, il doit y avoir des personnes âgées essentiellement. En fait, c'est pas forcément le cas, c'est-à-dire qu'on voit des personnes jeunes.
Alors, on voit des personnes jeunes, là, si vous voulez,
relativement jeunes.
En tout cas, le centre Paris Sud est un centre de réadaptation, ce qu'on appelle de soins de suite et de réadaptation, où là, nous avons des services de gériatrie, des services de rééducation neurologique ou orthopédique, avec une population assez âgée. En tout cas, on rencontre des gens assez âgés. Aujourd'hui, c'est vrai que paradoxalement, depuis notre ouverture, l'accueil des personnes au sein de notre structure montre que nous avons des gens plutôt jeunes. Paradoxalement, on pensait pouvoir accueillir des gens un peu plus âgés, mais nous sommes qu'au début de notre aventure.
Merci beaucoup, docteur Joël Crevier. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'on va retrouver le docteur Catherine Solanum? J'aurais quand même une dernière question. Le message, quand même, à l'occasion de cette journée de l'audition, c'est parce qu'on a eu plein de... Alors, je suis désolée, il y a des auditeurs qui attendent en ligne et qu'on ne va pas pouvoir prendre. Il y a Abdelkrim, il y a Benjamin. Attention au port du casque, quand même. Il faut se forcer à... On peut écouter au casque, vous ne dites pas jamais, mais attention à ne pas écouter fort, c'est ça?
Il faut baisser. Il faut surtout baisser le niveau sonore et surtout ne pas être sur une limitation de la durée, ça c'est important. Et puis surtout...
La limitation de la durée, c'est quoi alors? Combien?
Ah, c'est une heure. Il faut écouter au casque pendant une heure. Et puis surtout, un message aussi, c'est de ne pas s'endormir avec le casque dans les oreilles, notamment pour les jeunes. Ça c'est très important parce que ça diminue, si vous voulez, le temps de récupération des cellules neurosensorielles.
Et on en connaît quelques-uns qui d'ailleurs s'endorment aussi avec RFI dans les oreilles. C'est pas forcément une bonne idée. Et pour terminer, on retrouve le docteur Catherine Solano.
Priorité santé sur RFI.
Et docteur Catherine Solano, alors vous avez eu envie aujourd'hui de nous parler lit commun ou chambre à part, que choisir? Et il y a un lien avec le sujet sur l'audition, parce que si votre conjoint ronfle, vous avez peut-être tenté de faire chambre à part pour enfin dormir. Pour d'autres couples, dormir séparément est en fait un choix qu'ils pensent bénéfique pour leur couple. Alors Catherine, vous allez nous parler de ce qui est le mieux, dormir ensemble ou s'éloigner un peu pour mieux se retrouver. Et pour commencer, combien de couples d'ailleurs font chambre à part?
Ben, on connaît pas les chiffres exacts, forcément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur ça, vu que ce n'est pas un sujet de santé quand même, mais on sait que c'est aux alentours de 5% des couples en France, donc pas beaucoup, en tout cas moins de 10%. Mais dans certains pays, c'est beaucoup plus, comme aux États-Unis où 20% des couples font chambre à part, mais il faut savoir que les logements sont beaucoup plus grands aux États-Unis, donc c'est peut-être plus facile. Et on sait aussi que chez les couples qui ont une longue durée de vie commune, il y a plus souvent de chambres séparées que chez les jeunes couples.
Et pourquoi cette différence en fonction de l'âge?
Eh bien, c'est dû au fait qu'au fil des années, les petits agacements la nuit vont augmenter, les ronflements sont plus fréquents, par exemple.
Avec l'âge.
Mais c'est dû aussi au fait que les enfants partent quand on a plus de 50 ans, 60 ans, en général, on n'a plus d'enfants à la maison, donc on a des chambres qui se libèrent, donc c'est beaucoup plus facile de faire chambre à part. Donc c'est pas forcément parce qu'on ne s'aime plus qu'on fait chambre à part.
Et pourquoi certains couples dorment dans des chambres séparées? C'est quoi en fait leur raison?
Alors la raison, la principale, c'est vraiment la gêne mutuelle. Et alors les gênes mutuelles, donc on a parlé des ronflements, mais il n'y a pas que ça, il y en a énormément. Il est très agité, ça me réveille.
C'est-à-dire il bouge la nuit.
Voilà, il bouge. Il a les pieds gelés l'hiver, ça m'empêche de dormir. Il lit très tard le soir, il laisse la lumière allumée, moi j'arrive pas à m'endormir. Il parle en dormant. Il y a des personnes qui disent il est allergique aux acariens, il renifle toute la nuit, ça m'empêche de dormir. Ou il laisse les volets ouverts, du coup la lumière à 6h du matin, ça me réveille. Ou au contraire, il veut dormir dans le noir complet. Moi, ça m'angoisse d'être dans le noir. Ou il se lève très tôt le matin. matin où il se lève pour uriner ou il s'enroule dans la couette et moi j'ai froid parce que j'ai plus de couette. Enfin, vous voyez, ça c'est fréquent. Hein.
Donc la gêne, hein, c'est le fait que l'autre vous dérange, c'est vraiment la première cause de chambre séparée. Mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres raisons.
Oui, alors il y a aussi des couples qui vont faire chambre séparée parce qu'ils ont peur de perdre la magie amoureuse. Par exemple, ça va être d'autres raisons d'autres gênes, mais qui sont, c'est il a mauvaise haleine le matin. Alors une chose pas très drôle, il pète au lit et franchement, moi ça me ou je déteste les odeurs de transpiration ou elle garde ses chaussettes pour moi en dormant, c'est un tue l'amour. Il porte un vieux t-shirt troué, je supporte pas. Donc il y a des couples qui se disent on va faire chambre séparée, ça va préserver notre désir et cette distance choisie volontairement va créer un manque, une espèce de frustration et du coup on n'aura plus envie de se retrouver, d'aller vers l'autre à un certain moment. Donc l'autre va plus être un meuble qui est toujours là, mais ça va être quelque chose qui se mérite. Si on veut.
Docteur Solano, vous nous l'avez quand même dit, hein, la majorité des couples dorment ensemble. Est-ce que c'est par habitude ou est-ce que c'est parce que ces personnes pensent que finalement c'est mieux pour leur couple?
Mais je pense que dans un pays comme la France, souvent la question se pose pas trop parce que c'est vraiment une habitude culturelle. Mais il y a quand même des couples qui ont réfléchi et qui se disent c'est quand même mieux de dormir ensemble parce qu'on sait que les câlins et le contact corporel, ça génère de l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Donc, elle aide aussi le corps à se détendre. Et donc, c'est vraiment quelque chose de bon aussi pour le sommeil, d'avoir quelqu'un à côté. Ça, vous sentez plus en sécurité et détendu. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que dans un couple, il y a toujours par moments des tensions. Et le fait de se retrouver la nuit, de dormir à côté, ça peut apaiser les tensions. Et garder un contact corporel quand on s'est un petit peu disputé ou qu'il y a des choses qui vont pas trop, ça permet de passer plus facilement une crise pour beaucoup de personnes.
Et vous, docteur Catherine Solano, vous en pensez quoi en tant que sexologue?
Et ben moi, en tant que sexologue, je pense que ça dépend des couples. On me dit toujours, t'es un petit peu normande, peut-être bien que peut-être bien que non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que le lit conjugal, c'est un endroit où on oscille entre une envie de proximité amoureuse et une aspiration au bien-être personnel. Et ça peut être contradictoire, du coup, il faut que ça soit réajusté en permanence. Donc, ça veut dire que ma réponse, c'est qu'il faut comparer les avantages et les désavantages. Si, quand on dort ensemble, on est tellement énervé par l'autre qu'on a plus envie de lui parler, qu'on a du ressentiment, qu'on sent épuisé et que ça va être dangereux pour le couple, bah, il vaut mieux dormir séparément. En revanche, si on se sent apaisé et ça fait du bien d'être ensemble, bah, c'est mieux de dormir ensemble.
Et quand on n'est pas d'accord, quand les deux ne sont pas d'accord, on fait quoi?
Alors ça, c'est un problème.
Vous avez quelques tuyaux à nous
donner.
Oui,
donc il faut négocier. Donc il y a pas mal de solutions quand on n'est pas d'accord. D'abord, c'est prendre un matelas plus large, donc 180 ou 2 mètres, du coup, on se gêne moins. Si on bouge, par exemple, 2 couettes, chacun la sienne. Il y a énormément de couples qui ont 2 couettes. Se désensibiliser aux acariens si on est allergique pour plus renifler, acheter une liseuse pour pas avoir besoin d'allumer la lumière et réveiller l'autre, porter des bouchons d'oreilles si l'autre ronfle, ça il y a beaucoup de personnes qui le font. Puis il y a aussi la solution des lits jumeaux. Moi je suis d'origine espagnole, en Espagne énormément de couples dorment dans la même chambre mais dans des lits jumeaux, donc ils sont à côté. Et puis ça peut être aussi tout simplement de dormir séparés de temps en temps, de faire chambre à part de temps en temps si on est au bout du rouleau, qu'on n'a pas dormi depuis 3 nuits, mais pas forcément tous les jours, c'est pas forcément tout ou rien.
Et docteur Catherine Solano, comme d'habitude, on retrouve votre chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Et bien sûr, comme tous les jeudis, vous répondez aussi à une question d'auditeur. On a Samy qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo et qui a une question à vous poser depuis un moment. Samy, on vous écoute. Bonjour.
Bonjour Pierre Edon. Bonjour docteur.
Bonjour.
Oui, ma question est de savoir s'il faut... normalement, combien de minutes pour parler d'une éjaculation précoce?
Alors, quand est-ce qu'à partir de quand parle-t-on d'éjaculation précoce? C'est vrai qu'on a fait plusieurs émissions sur cette question. À partir de quand, effectivement, on peut en parler?
Alors, on peut en parler déjà pour la première éjaculation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent la deuxième fois, c'est plus long. Donc, est-ce que j'ai vraiment une éjaculation précoce? Ça compte pas. Ce qui compte, c'est la première fois, la première éjaculation. Donc, parce qu'on sait que la deuxième éjaculation, ça va être beaucoup plus facile pour tous les hommes. Donc, la définition officielle, c'est l'éjaculation précoce est une éjaculation persistante ou répétée lors de stimulation sexuelle minime avant, pendant ou juste après la pénétration et avant que le sujet ne souhaite éjaculer. Donc, on prend en compte ce qu'on appelle l'IELT, pour parler médicalement, c'est-à-dire le temps de latence éjaculatoire, la durée entre le moment de la pénétration et l'éjaculation. Alors, en pratique, c'est si ça fait moins de 1 minute ou 1 minute et demie, on conseille de prendre un médicament parce que c'est très difficile, c'est assez difficile, disons, de s'en sortir tout seul. Et on a des médicaments qui retardent l'éjaculation. Si la durée est de 1 minute et demie à 3 minutes, on peut aussi utiliser un médicament, mais pas forcément, parce qu'un homme, si ça dure entre 1 minute et demie et 3 minutes, il peut quand même apprendre à gérer son excitation. Et au-delà de 3 minutes, on considère qu'il n'y a pas besoin de prendre de médicaments. Il suffit d'apprendre à retarder l'éjaculation, ce qui n'est pas forcément facile, ça prend du temps, mais c'est possible.
Et juste un mot sur le médicament c'est le temps, je dirais, justement d'apprendre et de s'habituer, c'est pas du tout un médicament qu'il faut prendre sur la durée.
C'est un médicament, c'est un peu comme une béquille, quand on s'est cassé une jambe, il faut réapprendre à marcher, on a une béquille, on ne va pas regarder sa béquille à vie. Le médicament, c'est une béquille qui va vous aider à vous lancer dans la vie au niveau de l'éjaculation, à faire durer plus longtemps, mais c'est pas du tout un traitement à vie.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus la définition, alors pas simplement sur le temps, mais la définition de l'éjaculation précoce.
Oui, donc on dit que c'est une éjaculation trop rapide de façon persistante et répétée. Ça veut dire qu'un homme qui a une éjaculation rapide de temps en temps, il n'a pas une éjaculation précoce, il est comme tout le monde. Ensuite, il y a en prise en compte la nouveauté de l'expérience, c'est-à-dire qu'un homme qui commence sa vie sexuelle, qui a eu 3 rapports sexuels, qui dit ça a duré 1 minute, ben il n'a pas d'éjaculation précoce, il faut qu'il attende d'avoir eu des rapports sexuels pendant 2 mois, 3 fois par semaine à peu près, pour voir si ça continue à être trop rapide.
Donc, ce que vous nous répétez tout le temps, c'est que la sexualité, ça s'apprend.
Voilà. Et puis, il y a aussi la sensation de manque de contrôle. Il y a des hommes qui éjaculent vite, mais en fait, ça leur convient très bien. C'est volontaire. Et donc, là, c'est pas un problème si ça convient au couple. Et puis, il y a la souffrance interpersonnelle. C'est-à-dire qu'un homme qui a une éjaculation au bout de 30 secondes, tout le monde est content, lui et sa partenaire, et ben, on considère que c'est pas une éjaculation
précoce.
C'est pas un
problème. Voilà. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. On va mettre aussi également cette réponse à la question de notre auditeur à Kinshasa sur le site internet, parce qu'on a beaucoup de questions. Et vous avez donné quelques bons conseils précis. Merci beaucoup. Et demain, on parlera du psoriasis. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions. Le téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et bien sûr, comme toujours, les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.